on ne se parle plus, on ne discute plus.
Le problème est trop grave pour qu'on perde du temps à ce genre de querelle un petit peu stérile.
Une gare.
Vous diriez que depuis 30 ans dans le monde, il y a un dérèglement climat.
C'est un lieu où on croise.
Oui ou non?
Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien.
Ça fait 50 ans que ça dure.
Les prévisions millénaristes, c'est qu'à...
Je n'ai pas fini.
C'est pas parce que je suis un homme blanc hétéro cisgenre que je vis ma best life et que tout va bien.
Moi, alors, je suis wokiste, mon va très bien.
Les inégalités n'ont pas seulement explosé, elles se sont multipliées.
On ne se parle plus, on ne discute plus, on ne se dispute plus.
Non.
Grand Écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent.
Salut, moi c'est Solène.
Et moi c'est Lucie. Vous êtes dans Grand Écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent.
On se retrouve chaque semaine pour décortiquer une situation du quotidien où on a eu l'impression de faire le grand écart entre des personnes qui n'arrivent plus à se parler.
Merci pour tous vos retours sur nos podcasts. Ils nous font très plaisir et nous donnent du grain à moudre. On est vraiment heureuse que certaines et certains d'entre vous qui étaient avec nous au lycée, en primaire, à la fac ou encore à la crèche, nous écrivent et nous disent ce que vous en avez pensé ou ce qui au contraire vous a agacé ou vous a interrogé. Vraiment merci pour ça et n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire à grandecart@makesense.org.
Lors d'un dîner pizza chez les amis qu'il me reste, oui, si vous suivez, j'ai dit dans l'épisode 1 que j'avais plus d'amis, heureusement il m'en reste 2-3 qui me supportent encore. Bref, avec ces amis, on a eu la bonne idée de parler d'Abaya. Bon, c'était pas notre faute, franchement, c'était à ce moment le sujet du moment, comme s'il ne se passait rien de plus intéressant ou de plus grave. Moi, j'avais une position assez claire sur le sujet. Mon amie Garance, elle, a volontairement joué l'avocate du diable et n'a pas hésité à avancer des idées qui différaient du reste du groupe. Pour le coup, le reste du groupe, on était tous largement d'accord et assez sûrs de nous. Je la connais, Garance. Je sais qu'elle est comme ça. Elle adore débattre avec n'importe qui, et faut dire qu'elle le fait très bien, même avec des personnes avec lesquelles elle n'est pas du tout d'accord. Je l'ai déjà vue en action des dizaines de fois, et à chaque fois, sa capacité à oser m'épate. Avec Solène, on a voulu en savoir plus, alors on lui a proposé de nous donner son point de vue.
Moi, je valorise particulièrement la prise de position. J'aime bien les gens qui prennent des positions, quitte à les changer, quitte à évoluer, du moment qu'elles ont une forme d'ouverture sur l'autre et qu'elles peuvent évoluer. Et donc, moi, j'ai tendance souvent à prendre le contre-pied de la personne qui est en face de moi. C'est, j'aime bien le contradictoire. Donc, j'aime bien la contradiction, j'aime bien l'échange, j'aime bien parler avec des gens qui ne pensent pas comme moi. Si on pense tous pareil, je trouve ça un peu chiant. Donc, j'aime bien essayer un peu aussi de provoquer l'autre pour tester les limites aussi de nos positions. Parce qu'en fait, mine de rien, on évolue quand même tous dans des milieux dans lesquels les opinions sont souvent homogènes. On est dans un groupe d'amis, ben, en fait, on est amis parce qu'on pense souvent un peu les mêmes choses. Ou parce qu'en tout cas, on a des valeurs qui sont communes. Donc, on se retrouve souvent sur les débats. Et donc j'aime bien un peu justement tester les limites de ça, voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut se rapprocher peut-être d'autres groupes, avoir des opinions qui divergent. Et donc c'est vrai que je prends souvent le contre-pied de la personne en face de moi. Et j'affirme, c'est vrai que je suis pas... Même si je sais pas, souvent je vais... je dis jamais que je sais alors que je sais pas. Mais par contre... Souvent, je me dis, ben, par exemple sur l'abaya, je me disais, ben oui, mais si on considère que c'est un vêtement qui a une connotation religieuse, alors est-ce qu'on entend l'interdiction? Je faisais des parallèles avec le voile, par exemple. Voilà, donc c'est même si en soi, j'avais pas une opinion arrêtée sur la question, ça m'empêche pas d'essayer de faire des parallèles, tout en bien sûr en continuant d'affirmer hein, et de reconnaître que j'ai pas d'opinion arrêtée et que je m'y connais pas plus que ça.
Et est-ce que ton but, c'est d'avoir raison?
C'est dur comme question, parce que c'est vrai que j'aime bien avoir raison. Après, mon but, c'est plus... Il y a évidemment un peu de ça, mais mon but, c'est aussi qu'on puisse discuter. Moi, j'aime bien discuter avec les gens, et j'aime bien les débats d'idées. Donc, mon but, c'est aussi de... qu'il y ait un ping-pong, en fait. Et donc, voilà. Mais après, bien sûr que j'aime bien remporter les matchs de ping-pong. Quand je rencontre des gens qui ne pensent pas comme moi, et qui aiment débattre... et discuter infiniment sur des questions. Oui, je trouve ça très stimulant. Après, c'est un peu un jeu dangereux parce qu'en fait, souvent, quand on est deux personnes qui aiment bien discuter et échanger des idées, souvent, on a tous les deux envie d'avoir raison. Donc, ça peut rapidement dériver sur des conflits.
Et ça t'est déjà arrivé de soutenir une chose et son contraire d'un jour sur l'autre ?
Sur la baïa, typiquement, puisque la veille, j'avais eu un échange du coup avec mon copain où j'avais défendu mordicus que l'interdiction était complètement inepte. Et le lendemain, avec mes deux amis, je leur disais, je comprends cette interdiction, etc. Mais parce que dans une certaine mesure, la vérité est un peu entre les deux. Et enfin, la vérité, si tant est qu'une vérité, mais en tout cas, mon opinion, elle est un peu entre les deux. Et après, c'est vrai que j'aime pas non plus qu'on nie certaines positions ou qu'on étiquette justement certaines positions, parce que je trouve que l'étiquette, par exemple, de conservatisme, mais à l'inverse, de gros bobos de gauche, etc., je trouve que c'est des étiquettes qui empêchent la discussion, parce qu'en fait, c'est des écrans qui nous... C'est un peu des écrans de facilité qui nous empêchent d'étudier vraiment le fond de la position. Et je trouve qu'en fait, c'est trop simple de dire, s'il pense ça, c'est parce que c'est un gros con. S'il est de droite, c'est parce que c'est un gros con. S'il est de gauche, c'est parce que c'est juste un idiot naïf. En fait, c'est des mots que je trouve qu'on entend de plus en plus souvent dans le débat, et que j'entends aussi dans la bouche de mes amis, et que moi aussi je prononce. Du coup, je trouve que c'est quand même important qu'on puisse échanger avec des gens qui pensent pas comme nous, et donc souvent je me fais le chantre des opinions divergentes.
En écoutant ton ami Garance, je me suis imaginée dans la pièce avec vous ce jour-là. Et honnêtement, il y a fort à parier que ce soit le genre de moment où j'aurais pu simplement ne rien dire. Non pas que je ne sois pas intéressée par le sujet, mais plutôt parce que j'aurais pas forcément eu d'avis. Face à des personnes qui semblent très bien maîtriser un sujet et avoir des arguments rodés, il y a peu de chances que je me lance, d'autant plus si ça se transforme en joute verbale. En fait, ça va me bloquer et franchement, ça ne va pas du tout me faire rentrer dans la discussion. Je vais écouter activement, certes, essayer de comprendre la perspective de chacun, observer la balle qui vole dans un camp puis dans l'autre, et à la toute fin, peut-être, partager mon avis. Et une fois que j'aurai synthétisé ma pensée, si je trouve que cela ajoute quelque chose au débat, dans ce cas-là, j'aurai envie de partager et de ne pas partir en gardant ça pour moi. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est grave finalement de ne pas dire quelque chose tout de suite? Doit-on nécessairement choisir un camp? Et pouvons-nous encore parfois ne rien dire?
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse, moitié à côté.
Je dirais que parfois, c'est important de savoir ne rien dire, de savoir se taire.
Tu crois ? Parce que c'est un peu ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines face à l'explosion des violences entre Israël et la Palestine. C'est simple, je me suis sentie complètement paumée dans mon silence. Dans mon cas, je ne suis ni israélienne ni palestinienne, mais je ne supporte simplement pas de voir ces massacres se dérouler sous mes yeux. En ligne, je voyais des amis, des personnalités que j'estime, qui semblaient très au clair, dès les toutes premières heures, avec leurs opinions et qui les affirmaient haut et fort. Certaines personnalités d'ailleurs que j'admire m'ont vraiment déstabilisée en partageant du tac au tac des propos très marqués, pour un camp, sans témoigner nécessairement d'empathie pour l'horreur vécue de l'autre côté de la frontière. Et ça m'a d'ailleurs permis de réfléchir un peu à ce qui comptait vraiment pour moi. Et puis il y a aussi une question de temporalité dans ce silence et de n'en rien dire. Dans mon cas, il a fallu quelques jours pour vraiment mesurer la gravité des actes. Seulement, quelques jours, c'est énorme pour des personnes impactées, qui soit sont originaires de la région ou se sentent concernées pour plusieurs raisons par cette situation. Et je réalise que mon silence a pu blesser certaines personnes, notamment parce qu'il a pu être interprété comme un manque d'empathie ou encore pire, un silence complice à ces violences.
Peut-être qu'il n'y a parfois rien à dire, qu'il vaut mieux prendre le temps de pleurer ou de se recueillir. Parce qu'on n'arrive pas à trouver les bons mots ou que les mots ne sont d'aucun réconfort à ce moment-là. Personnellement, je préfère différer ma prise de parole ou ma prise de position. Non seulement parce que je suis émue, que je sais pas, mais aussi parce que j'ai tout simplement besoin de temps. Mes premières idées sur une situation ne sont pas toujours les plus justes. Ça prend parfois du temps de traduire, se traduire, et traduire ce qu'on ressent ou ce qu'on pense, et c'est ok.
Les choses ont été si vite, la situation évoluait du jour au lendemain et je me suis sentie complètement perdue. Si j'ai pu commencer à y voir clair, c'est aussi parce que j'ai pris le temps de lire, de m'informer et d'en parler avec des personnes impactées, qui connaissent ou s'intéressent à la situation. Des personnes qui m'ont elles-mêmes recommandé des sources d'informations, ce qui est clairement un gros défi aujourd'hui.
Dans ce que tu dis, j'ai l'impression que se taire, c'est cesser la possibilité d'écouter, d'entendre l'expérience des autres, de chercher à en apprendre peut-être quelque chose, d'accepter sa propre incertitude ou son ignorance. Il y a plein de choses sur lesquelles je n'ai absolument aucun avis. Peut-être que j'ai de mauvaises idées, des clichés, des intuitions, mais des avis et des avis qui ne changeront jamais, ça non. On n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout, particulièrement sur des choses auxquelles on n'a jamais réfléchi. Je peux d'abord écouter, poser des questions, même si elles sont bêtes, chercher à enrichir mon kaléidoscope d'autres expériences. Hannah Arendt, oui désolé, je suis en boucle sur Hannah Arendt, au cas où vous ne l'aviez pas encore compris, écrivait ainsi que l'empathie, soit la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent, ne suffit pas. C'est au fond très difficile, voire impossible, de vraiment ressentir ce que ressent une autre personne dans une situation donnée. Arendt nous invite plutôt à la mentalité élargie, soit la construction de quelque chose qu'on peut penser théoriquement. C'est pas donc uniquement ressentir, mais penser. Pour émettre la meilleure opinion possible en politique, il faudrait construire une mentalité élargie en se situant dans un maximum de perspectives différentes. Non pas croire qu'on peut ressentir ce que ressent l'autre, mais, tout en restant soi-même, imaginer notre jugement si nous occupions toutes les autres positions par rapport à la situation donnée. C'est ainsi qu'on pourrait atteindre le plus de justesse possible dans l'opinion construite.
Je crois que je ne suis pas à l'aise d'être accusée de complicité à cause de mon silence, mais je comprends également qu'aujourd'hui, c'est une vraie bataille de l'opinion publique qui se joue. Une bataille savamment orchestrée par les médias. Certains propriétaires ont des idéologies très marquées. C'est pareil sur les réseaux sociaux et avec leurs algorithmes. Alors garder le silence, c'est aussi faire plus de place à des idées qui attisent la haine. Ces dernières semaines, je crois que je prends conscience du poids de ma parole. Je prends aussi conscience des différentes formes de paroles que je peux avoir et qu'elles peuvent se succéder dans un temps court, qu'elles peuvent changer en fonction du contexte. Un jour partager mon soutien, le lendemain condamner, apprendre à se taire, interpeller des élus politiques, prendre un temps de silence, puis à nouveau peut-être condamner.
La question qui se pose aussi, je crois, c'est celle du « qui peut dire quoi ?» Comment trouver la bonne place par rapport à des causes ou des luttes qui ne sont pas tout à fait les nôtres? Adopter une posture d'allié, et on vous met des références d'ailleurs dans la description du podcast sur cette posture d'allié, c'est être à l'écoute des personnes en situation de discrimination, c'est prendre conscience des réalités vécues par les autres. C'est ne pas s'exprimer à leur place publiquement quand elles pourraient le faire directement. C'est aussi faire preuve d'humilité, et parfois se contenter d'être une personne qui soutient, pas une personne qui va être sur le devant de la scène quand on n'est pas le ou la plus indiquée pour s'exprimer. Bon, il y a une nuance. Si on est soi-même dans une position de privilège parce qu'on peut prendre la parole publiquement, qu'on a du pouvoir ou de l'influence, la posture d'allié, ça peut aussi vouloir dire parler, soutenir publiquement des personnes qui ne partagent pas nos privilèges.
Quels sont les mots qui vous manquent encore? Qu'avez-vous besoin de dire? Quelles sont les tyrannies que vous avalez jour après jour et que vous essayez de faire vôtres, jusqu'à vous en rendre malade et à en crever en silence encore? Peut-être que pour certaines d'entre vous ici aujourd'hui, je suis le visage d'une de vos peurs. Parce que je suis femme, parce que je suis noire, parce que je suis lesbienne, parce que je suis moi, une poète guerrière noire qui fait son boulot, venue vous demander, et vous, est-ce que vous faites le vôtre? Et bien sûr j'ai peur. Car transformer le silence en parole et en action est un acte de révélation de soi. Et cet acte semble toujours plein de dangers. Quand je lui ai parlé de notre sujet de discussion et de mes difficultés, ma fille m'a dit « Raconte-leur qu'on n'est jamais une personne à part entière si on reste silencieuse. Parce qu'il y a toujours cette petite chose en nous qui veut prendre la parole. Et si on continue à l'ignorer, cette petite chose devient de plus en plus fébrile, de plus en plus en colère. » Et si on ne prend pas la parole, un jour, cette petite chose finira par exploser et nous mettre son poing dans la figure. La raison du silence, ce sont nos propres peurs. Peurs derrière lesquelles chacune d'entre nous se cache. Peur du mépris, de la censure, d'un jugement quelconque, ou encore peut-être d'être repérée. Peur du défi, de l'anéantissement. Mais par-dessus tout, je crois, nous craignons la visibilité. Cette visibilité sans laquelle nous ne pouvons pas vivre pleinement. Dans ce pays où la différence raciale, quand elle n'est pas dite, crée une distorsion permanente du regard, les femmes noires ont été d'une part toujours extrêmement visibles, d'autre part rendu invisible par l'effet de dépersonnalisation inhérent au racisme.
Ce qui vient d'être lu, c'est un extrait du livre d'Audre Lorde, Your Silence Will Not Protect You.
Le silence est utilisé depuis des décennies ou des siècles pour invisibiliser des choses et sans que l'on s'en rende compte. Et c'est une fois que le silence est brisé que l'on réalise ce qui s'est passé. On pense évidemment à différentes formes de violence et à la fameuse loi du silence, mais aussi aux dominations invisibles dans leur ensemble.
Par exemple, quand j'étais en école de commerce, j'ai gardé le silence sur certaines oppressions que j'avais vues ou dont j'avais entendu parler parce que je ne me sentais pas le courage de les dénoncer. Ou alors que j'étais juste trop soulagée que ça ne tombe pas sur moi. Aujourd'hui, je le regrette.
La formulation de Geneviève Fraisse, femme philosophe de la pensée féministe et directrice recherche émérite au CNRS, m'a particulièrement marquée. Elle écrit « L'important dans la domination, c'est l'illisibilité de la domination. » Et quand cette illisibilité devient visible, le silence se transforme en parole. Et les minorités, jusqu'alors dominées, prennent la parole publiquement. Ces prises de parole n'ont pas pour but de dominer à leur tour, mais comme le dit très justement mon amie Léa, c'est à la hauteur de ce qui a été tu pendant des années.
Ce que je retiens aussi de ces échanges et du témoignage de Garance, c'est qu'on a le droit de changer d'avis. C'est d'ailleurs le sujet d'un tout petit livre à destination d'un public adolescent, écrit par l'écrivaine et musicienne du groupe Catastrophe, Blandine Rinquel. L'idée n'est bien sûr pas d'être dans un relativisme total, de penser que peut-être bien que la Terre est plate, si mon voisin me le dit. Pas du tout. Il y a bien sûr des avis qu'on ne soutiendra jamais. Mais je trouve ça beau, les personnes qui acceptent de s'être trompées, d'avoir changé de perspective. Bon, j'avoue que je suis pas forcément la meilleure pour ça, car je peux être assez bornée. L'avantage, et je vous livre là une petite astuce, c'est que quand, comme moi, on n'a aucune mémoire, on peut facilement soutenir le contraire de ce qu'on a dit la veille.
Allez, on résume pour nos futures mises en pratique.
Quand on se sent pris dans un conflit à cause de notre avis ou de notre absence d'avis, on pense au livre de Sarah Schulman « Le conflit n'est pas une agression ». Dans un débat, le but, c'est pas de chercher à dominer l'autre, mais échanger avec lui. Dans son livre, Sarah Schulman insiste énormément sur le fait de décrocher son téléphone. Moi qui suis phobique du téléphone, j'avoue qu'au départ, je n'achète pas. Mais pourtant, elle a raison. Peu de conflits, par exemple, nés sur des groupes WhatsApp qui finissent avec l'un des membres qui quitte le groupe, auraient connu la même issue si les deux protagonistes en question s'étaient parlé au téléphone. On vit à l'ère de l'agressivité très rapide, dans la supposition que l'autre a de mauvaises intentions ou qu'il nous provoque, et l'écrit n'arrange rien. Pour Sarah Schulman, il faudrait commencer par s'ouvrir à l'opinion de l'autre avant de le condamner publiquement. Alors, bien sûr, on ne parle pas ici de comportement de violence, mais plutôt de situations de débat qui s'enveniment, de positionnement pas clair ou de doute. Comme conseillé par Blandine Rinquel dans son livre, on fait la liste de toutes les choses sur lesquelles on a changé d'avis dernièrement. On pose la question à ses amis, ses proches, aux personnes qu'on rencontre en soirée. Ça change du « tu fais quoi dans la vie ?» et ça fait probablement davantage aimer les gens.
J'accepte de ne pas savoir, je prends le temps de m'informer, j'interroge les personnes de confiance qui pourraient me partager des lectures de la situation et me recommander des contenus. Je prends le temps d'aller chercher ces infos et je m'efforce de m'interroger quant aux messages que je vois passer sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et à l'ère où chacun donne son avis sur Internet, mais qu'on n'ose même pas en parler avec son voisin de palier, on a besoin d'initiatives concrètes qui nous refont aimer l'échange, le débat, l'écoute, la rencontre. Et ça me fait penser à l'initiative La République des hypervoisins, qui se situe dans le 14e arrondissement de Paris et qui prend soin du lien entre tous les voisins. Et chaque année, ils se réunissent autour d'une immense table pour un grand banquet. Il y a fort à parier que tout le monde n'a pas le même avis sur les sujets de société, mais cela n'empêche pas de faire société et surtout de refaire le monde à l'échelle d'un quartier.
Enfin, quand les mots ne suffisent pas, on pense à tout ce qu'on peut faire d'autre. Manger, faire la cuisine, se faire des câlins et pourquoi pas, écouter de la musique. Allez, on vous laisse avec Thalia.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse, moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui ne sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire de livrer nous du pire et garder le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons, pour des cons. J'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, et qu'on leur dise, on leur crie, merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Grand Écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent.